9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
François Claus.
Et on accueille à présent votre invité média, François.
Allez, oui, je suis très heureux d'accueillir dans ce studio d'Europe 1 M. Tony Comiti. Bonjour, M. Comiti.
Bonjour.
Pour tout journaliste comme moi qui a fait du reportage, qui regardait dans les années 80 Jean Bertolino sur TF1, qui a été absolument fondateur dans mon choix de métier, on est très ému de recevoir M. Comiti, qui est un exemple pour nous, qui fut photographe de terrain, qui est allé en reportage en Amérique du Sud, qu'on a retrouvé sur tous les terrains de la grande actualité, et qui a fondé la première agence finalement d'image télé, comme une agence de photos auparavant, pour fournir en documents et en reportage toutes les grandes émissions de reportage des chaînes de télé françaises des années 80, 90, 2000. Je résume bien, Tony Comiti.
Tout à fait, voilà. Donc, en fait, cette aventure, elle démarre dans les années 89. J'avais passé 17 ans comme grand reporter à TF1 avec Jean Bertolino, qui était un grand reporter qui avait fondé 52 sur la Lune.
52 sur la Lune, et à l'époque, il y avait dans les kiosques, il y avait Actuel. Ce sont les deux éléments qui m'ont dit je veux être journaliste. Je voulais déjà être journaliste, mais encore plus quand je vous regardais en reportage et je voulais faire ça et que je lisais Actuel. Voilà, alors je vous le dis sans flagornerie, mais ça me fait plaisir d'échanger dans ce studio. Et donc, je vous ai coupé dans votre histoire. Vous étiez en train de raconter au départ TF1, les grands reportages.
Voilà, tout à fait. Et à cette époque, le grand reportage, d'ailleurs toujours, c'était surtout du tout image. Il n'y avait pas de présentateur, pas d'effet, pas de trucage, pas de montage superficiel ou avec des effets. C'était du reportage pur. Et notamment ce qu'on a voulu faire avec Patrice Lucchini, qui est le directeur de la collection Les Routes de l'Impossible, c'est de continuer ce savoir-faire français, parce que il faut savoir que les grands reporters français sont probablement les meilleurs du monde. C'est pas de l'ego, mais c'est vrai. Je cite toujours cet exemple. Lorsque j'étais photographe d'agence, lorsqu'il y avait des gros coups dans le monde, des révolutions, des coups d'État, les grands magazines américains envoyaient, comme Newsweek ou Time, envoyaient leur staff, un photographe et un rédacteur, mais ils prenaient toujours un photographe français parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a un savoir-faire, et puis il y a la débrouille. Voilà, donc
ça, c'est trois qualités françaises. Donc, un regard, un savoir-faire, une forme de débrouille sur le terrain.
Une forme de débrouille, voilà. Donc,
Pour avoir côtoyé des confrères britanniques aussi, les Anglais sont pas mal, souvent sur le terrain, avec des bons moyens.
Je trouve que les Français sont un petit peu plus débrouillards.
Dans le grand reportage.
C'est donc, côté cocorico.
À partir de ces reportages de terrain, ces reportages de guerre qui couvraient l'actualité, vous avez eu l'idée, vous l'avez évoqué à l'instant, de monter une série qui s'appelle Les Routes de l'Impossible, qui est un défi. On va justement en parler à nos auditeurs, parce que c'est 6 mois de tournage pour arriver à un 52 minutes à la télé qui consiste à raconter un pays lointain, exotique, à travers l'une de ces routes. Et là, vous envoyez des reporters passer donc, je parlais de 6 mois de tournage, mais de longues semaines, de longs mois, dans des pays aussi exotiques que le Congo, la Zambie, le Paraguay, et ramenant des images qu'on ne voit nulle part ailleurs.
C'est-à-dire, en revenant de ces grands reportages, souvent on revenait de zones improbables, dans des pays plutôt dangereux. Et lorsque je rentrais à Paris, tout était réglé comme du papier à musique. C'est-à-dire, on voyait les enfants qui vont à l'école à la même heure, qui traversent dans le passage clouté. Les trains, à l'époque, étaient à l'heure. Les métros aussi. Donc, et ces gens râlaient, parce que l'avion a un quart d'heure de retard, parce que le métro n'arrive pas. Et ils remettaient tout en question. Alors que dans les pays que je traversais, on pouvait attendre un avion pendant 3 jours, une pirogue pendant 4 jours, prendre un camion pour survivre. Parce que les gens que nous filmons dans les routes de l'impossible, ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques juste pour survivre. C'est-à-dire, on voit par exemple là, notamment, vous allez voir sur Cuba, qui est diffusé dimanche sur France 5.
Justement, vous êtes là dimanche 20h50 sur France 5. Nous sommes déjà à la 12e saison. C'est le 2e épisode de la 12e saison. Là,
12e saison, 80 Cuba. Documentaires et 60 pays visités.
Et ce qui fait qu'on peut avoir à peu près une bibliothèque de tous ces voyages que vous nous proposez depuis 12 ans maintenant dans le monde à travers les routes de l'impossible. Alors avant de reparler de Cuba, écoutez.
Après 4 heures de navigation intense, Luis retrouve son transporteur. La coopérative lui achète 2 euros les 100 kilos de bananes. Ce n'est pas énorme. Mais Luis nous explique qu'il n'a pas besoin de gagner plus pour bien vivre.
Je suis très heureux de faire ce travail. Mais quand j'étais enfant, mon rêve était d'être musicien, chanteur.
Un rêve qu'il réalise tous les soirs après le travail avec son groupe.
Oui, parce qu'à Cuba, tout se termine quand même très souvent en musique. Extrait donc des Routes de l'Impossible, Cuba, diffusé à 20h50 sur France 5. Et on voit bien dans cet extrait que notre ami Tristan Barraud nous a sélectionné, on voit très très bien qu'à travers la route, c'est un pays qui se dessine, c'est des destins de gens particuliers que vous rencontrez sur le terrain et qui nous racontent leur propre pays.
Alors, Cuba, depuis 60 ans, est coupé du monde, hein. Castro est mort il y a 3 ans. Bon, aujourd'hui, les Cubains, plus que d'écouter des discours idéologiques, ils préfèrent le dollar. Donc, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent.
Et Internet.
Et Internet.
Pour
découvrir le monde. Donc, par exemple, les voitures neuves sont inexistantes à Cuba. Et les pièces de rechange sont absolument introuvables. Donc, les Cubains sont devenus les rois de la débrouille, par exemple. On a suivi un chauffeur de taxi. Alors, les touristes français, lorsqu'ils vont à Cuba, bon, ben, y a les plages, il y a la Havane, il y a le rhum, il y a la musique. Mais ils vont pas là où nos reporters vont, c'est-à-dire au fin fond des petits villages dans les montagnes, parce que simplement l'accès est pratiquement impossible.
Vous avez notamment dans le reportage à Baracoa, tout à l'est de l'île, Cuba, ouais. Qui est un endroit absolument fantastique, ouais. Mais quasiment inaccessible.
Inaccessible, sauf pour un chauffeur de taxi. Alors lui, c'est dingue. Il roule dans une Chevrolet des années 50. Alors c'est dingue parce que sa Chevrolet, le moteur, déjà, c'est un groupe électrogène qu'il a trouvé, qu'il a réparé, qu'il a fabriqué. Le moteur. Donc le volant, c'est un volant d'une voiture roumaine, probablement une Lada, et il est très fier de nous montrer que ses sièges sont les sièges qu'il a retrouvés sur une Peugeot 404 des années 60. Donc voilà, ils sont capables de fabriquer un carburateur avec une boîte de conserve. C'est ça qui est formidable. Alors il roule, il adore sa Chevrolet. Ce qui est formidable avec les Cubains, c'est qu'ils sont fiers d'être Cubains. Donc il est très très fier de sa voiture. Alors la pauvre voiture, elle passerait pas le contrôle technique, mais même pas en rêve en France. Mais c'est l'amour de sa vie. Et cette voiture, il l'a héritée de son père. Il l'a rebricolé et il va la laisser à son fils.
Il va la transmettre à son fils. Ouais, et voilà comment, sur une route, avec une voiture, on raconte un pays qui est la marque de fabrique de ces routes de l'impossible. Allez, on va se garer un petit peu, là, sous un cocotier cubain. Le temps de boire un petit mojito et puis on va reprendre la route avec Tony Comiti.
Donc à 10h du matin, François.
Mais avec modération, comme d'habitude.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Culture
Viva
Média.
La vida.
Si. Claro que si. Avec François Clauss, nous sommes avec le journaliste et photographe Tony Comiti.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, François Clauss.
Et avec nous ce matin, François, le journaliste et photographe Tony Comiti. Il produit Les Routes de l'Impossible. Rendez-vous dimanche à 20h50 sur France 5.
Et vous pourrez voir l'épisode dont on parlait à l'instant, Cuba, donc à 20h50 sur France 5. Le succès ne se dément pas, Tony Comiti. Ça fait 12 ans que, grosso modo, vous vendez dans des dizaines de pays dans le monde et que 700 à 800 000 téléspectateurs en France vous suivent et vous regardent, que vous soyez au Congo, en Zambie ou à Cuba.
Bah écoutez, je crois qu'il y a une appétence sur le grand reportage à l'étranger de la part du téléspectateur, parce que bon, aujourd'hui, les programmes français de reportage et de documentaire, on s'intéresse beaucoup à la vie sociétale française, c'est-à-dire qu'on se regarde un peu le nombril, c'est la vie en famille, les grèves, le chômage, voilà. On oublie un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Alors, grâce à ce type de reportage, grâce à ce type de documentaire, on ouvre une fenêtre sur le monde, et notamment sur des pays qui souffrent. Les pays où nous tournons, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, la Chine, la Sibérie, ce ne sont pas des pays simples pour les gens, et notamment pour se déplacer, ce qui est le concept des routes de l'impossible. Donc, France Télévisions ouvre une fenêtre. Il y a deux grandes émissions aujourd'hui. C'est, bon, sur France Télé, on voit, il y a les routes de l'impossible et peut-être d'autres, mais et il y a M6 avec Enquête exclusive. Mmh. Ce sont aujourd'hui les deux seules émissions qui ont une fenêtre, un regard sur le monde.
Mais vous avez senti, vous, Tony Comiti, qui avait monté votre société dans les années 90, qu'il y a eu ce rétrécissement du champ du regard français, de plus en plus ethnocentré, de moins en moins ouvert sur le monde. Vous l'avez vu dans votre travail au quotidien.
Ben oui, ça s'est passé, et notamment c'est avec le problème de l'audimat. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, les conflits n'intéressent plus vraiment personne. C'est-à-dire les émissions comme Envoyé spécial, qui étaient des grandes émissions de reportage, qui ouvraient sur les conflits internationaux, aujourd'hui vont ouvrir plus sur la consommation, sur le sociétal français.
L'histoire du jus d'orange que vous buvez le matin, d'où ça vient, comment ça fonctionne très très bien.
Voilà.
Mais que se passe-t-il aujourd'hui au Yémen entre chiites et sunnites?
C'est très compliqué aujourd'hui de proposer aux chaînes ce type de reportage. C'est très compliqué parce que l'audience ne vient pas, apparemment. Hein. Donc, sauf sur des émissions en deuxième partie de soirée. Là, pour le coup, les gens viennent voir, choisir un programme. Tandis qu'il y a quand même un gros problème aujourd'hui, c'est que le téléspectateur, il va rester 3 minutes, même pas 2 minutes sur un programme de prime. Si ça ne l'intéresse pas, il va zapper.
Mmh.
Donc c'est très compliqué de convaincre le diffuseur de s'intéresser aux problèmes de l'étranger.
Vous regrettez l'époque finalement où il n'y avait pas cette dictature de l'audimat, où on n'était pas en mesure techniquement de mesurer aussi bien les habitudes des téléspectateurs qu'on ne le fait aujourd'hui, et qui vous permettait d'une certaine manière, vous en tant que producteur d'images, d'imposer des choix aux diffuseurs, alors que maintenant vous êtes soumis à ce que les diffuseurs vous demandent au nom de l'audimat triomphant.
C'est-à-dire, pas de liberté de la presse sans liberté économique. Hein. Donc, tout est une question d'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour financer un reportage, vous ne pouvez pas le faire. Donc, par exemple, les routes de l'impossible, qui se vendent très bien à l'étranger, nous permettent aussi, si vous voulez, de pouvoir tenter des coups sur les... Le travail de l'agence que je dirige...
On rappelle que Tony Comiti Productions, c'est quand même 48 salariés, 8 rédacteurs en chef. Vous produisez 80 heures de documentaires et de reportages par an, un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Vous avez un catalogue très riche maintenant, qui vous permet également de vivre sur vos archives.
Alors, tout à fait. Donc, c'est 48 personnes. Quand je dis 48 personnes, il y a la production, il y a des grands reporters. Notamment, les routes de l'impossible se fabriquent avec deux caméramans, deux grands reporters caméramans, parce que je suis un homme d'image et que le blabla et le commentaire remplacent ce qui manque à l'image. Donc, et c'est fait d'une façon assez simple, mais en même temps, pas facile à réaliser. Par exemple, lorsqu'on suit un camion en haut des Andes, à 2500-3000 mètres, dont les roues sont dans le précipice, on installe des GoPros un peu partout, sous le camion, sur le camion. Il y a un caméraman qui est près du chauffeur et qui écoute ce qu'il dit, qui filme ce qu'il dit. Et l'autre caméraman, lui, il est à peut-être 500 mètres, et il va droner ou il va faire des plans larges. Et c'est synchrone. Donc c'est du vrai, quoi. C'est du vrai.
Alors, droner, vous l'avez entendu, aujourd'hui, il n'y a pas un documentaire sans une image de drone maintenant. Hein. C'est-à-dire que vous avez, au fil du temps, vous vous êtes adapté aux nouveaux moyens techniques, mais qui, il faut le dire, ramène de l'image formidable.
Ah bah alors, trop de drones, tu le drones.
L'image.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit certaines émissions, il y a 80% de drones. Et voilà, donc là, sur le concept des routes de l'impossible, on est sur des paysages tellement fantastiques que le drone est indispensable. Mmh. On a évolué, pas tellement sur le fond, parce que c'est quoi le fond ? On suit des gens dans leur quotidien. On l'a toujours fait, vous le savez aussi, vous avez fait beaucoup de terrain. On suit les gens dans le quotidien, dans leur vie, dans leur famille. Bon, mais le téléspectateur est habitué à ça aujourd'hui. Donc il faut l'étonner. Moi je dis toujours que la caméra, elle doit étonner. Il faut étonner avec des cadres, avec des axes. Aujourd'hui, on a évolué beaucoup sur la forme, avec les caméras GoPro, c'est-à-dire des caméras qu'on embarque, qu'on place sur des hommes ou sous les camions. Et puis, on travaille maintenant aussi beaucoup avec les nouveaux téléobjectifs, qui sont extraordinaires et qui nous donnent une impression de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, la télé, le grand documentaire, c'est du cinéma. Sur la forme.
Absolument, et c'est ce qui donne cette qualité d'image nouvelle, et qui va peut-être justement redonner vie au reportage à l'étranger, pas seulement à celui censé intéresser le téléspectateur, c'est-à-dire d'aller à côté de chez lui. Continuons à être surpris par l'image, surpris par les sujets, et de ne pas forcément les écrire tous en amont pour apporter des surprises aux téléspectateurs qui peuvent fonctionner. On a compris que c'était votre philosophie, Tony Comiti.
Absolument.
Et celle qu'on peut voir dans Les Routes de l'Impossible, dimanche, France 5, 20h50, Cuba, donc, on l'a compris.
Longue vie
à vous, à Tony Comiti Production également. Merci de nous avoir accompagnés.